Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertille Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Lery, dont Rosalie Suc, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Cindy Le Grumelec. Alors que la 74e Assemblée Générale des Nations Unies a débuté, nous allons nous intéresser aux grands enjeux diplomatiques du moment. On parlera climat, droits de l'homme, guerre commerciale entre Pékin et Washington, mais pour commencer, direction la région du Golfe, où la pression ne cesse de s'accroître. La poudrière du Golfe ou le Moyen-Orient au seuil de l'embrasement, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Les feux sont contrôlés. Le département concerné a commencé son enquête. Les incendies ont été provoqués par des attaques de drones.
En tant que Saoudien, quand je me réveille et que j'apprends que des attaques terroristes ciblent notre pétrole, c'est terrible. Mais j'ai confiance en nos chefs et nos soldats pour venir à bout de ces difficultés et de ces obstacles.
Les Yéménites n'ont pas frappé un hôpital. Ils n'ont pas frappé une école. Ils ont simplement frappé un centre industriel. Une attaque pour vous mettre en garde. Tirez les leçons de cet avertissement et considérez qu'il pourrait y avoir une guerre dans toute la région.
Je ne veux de guerre avec personne. Je suis quelqu'un qui aimerait ne pas avoir de guerre. Notre armée est la plus forte au monde. Je ne veux de guerre avec personne, mais nous y sommes préparés plus que n'importe qui.
On entendait à l'instant les voix de Donald Trump, mais aussi du président iranien Hassan Rouhani. Samedi 14 décembre, les installations pétrolières d'Aramco étaient touchées par une attaque de drones, provoquant une chute de la production saoudienne et par ricochet, une hausse du prix du brut. Si l'Iran pourrait être derrière cette attaque, la riposte se fait toujours attendre. Et le président Trump semble même quelque peu frileux à l'engager, considérant que c'est l'Arabie Saoudite, qui a été visée et pas les États-Unis. Pourtant, les deux pays, bien sûr, on le sait, sont liés par un accord historique très ancien, le pacte de Quincy, signé en 45. Alors l'entente américano-saoudienne est-elle en train de s'effriter? L'anti-iranisme a-t-il touché ses limites? Au-delà de ce cas particulier, caressant les tensions entre les grandes puissances du Moyen-Orient, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ce ne sont pas nouvelles, mais s'ancrent dans un contexte particulier où les puissances étrangères habituées à légiférer dans la région s'effacent peu à peu. C'est bien sûr le cas des États-Unis, qui retirent peu à peu leurs troupes et clament par la voix de Donald Trump ne plus vouloir être le gendarme du monde. Résultat, les acteurs régionaux s'autonomisent, aspirent à gérer seuls les affaires de la région. Et puis, autre conséquence aussi qu'on a vu ces dernières années, la montée en puissance de la Russie, qui, après avoir été longuement en perte de puissance, s'impose désormais. Un nouvel acteur dans la région, comme on le voit notamment en Syrie, on en parlera. Dans cette autonomisation des forces régionales, quels sont les rapports de force face à autant d'intérêts divergents? Comment se nouent les alliances? Comment elles se composent, se décomposent, se recomposent? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin. David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant et chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, je pense notamment à Géopolitique de l'Arabie Saoudite qui était paru chez Armand Collin. À vos côtés, Frédéric Ansel. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris, auteur, vous, d'un ouvrage notamment paru au PUF, mon dictionnaire géopolitique. Cette attaque qu'on a vue là ces derniers jours, c'est quand même une attaque très importante. On parle là du cœur économique du premier exportateur de pétrole au monde, de surcroît principal allié des Occidentaux dans la région et principal allié en particulier des États-Unis. Vous avez été étonné, David Rigoulet-Rose, du peu de réaction, de la prudence de l'administration américaine suite à cette attaque des installations pétrolières saoudiennes?
Pas forcément, parce que c'est le paradoxe d'ailleurs de la posture de Donald Trump. Au niveau de la rhétorique, elle est très virulente, mais en même temps, concrètement, quand on regarde les faits, il y a pas de passage à l'acte. Il a toujours dit d'ailleurs, et c'est le problème d'ailleurs il est un peu piégé par sa stratégie, parce que il se présente comme un joueur de poker, en bluffant éventuellement, mais en face de lui, il a des champions d'échecs. Hein. Les Iraniens sont les inventeurs du jeu d'échecs, et ils savent très bien ce qu'ils font. Donc c'est extrêmement calculé. Or, il a fait, si c'est une erreur, en tout cas, il a dit qu'il ne souhaitait pas la guerre. Donc à partir du moment où il...
Tout en disant qu'ils étaient prêts, que les États-Unis étaient le pays le plus préparé à la guerre.
Oui, mais concrètement...
Double discours.
Concrètement, les Iraniens ont intégré cette variable. Et donc, ils sont dans une stratégie calculée très précise. Et donc, c'est pas forcément surprenant que ça se soit produit dans cette configuration.
Frédéric Ancel, étonné vous aussi? Et puis, j'évoquais dans mon chapeau l'accord du Quincy 1945, qui était un accord qui, en gros, disait vous nous donnez votre pétrole et on assure votre sécurité. Est-ce que le fait précisément que l'administration américaine aujourd'hui ça soit extrêmement frileuse à réagir quand même, ce qui est une attaque extrêmement importante, est-ce que c'est le signe aussi, peut-être, que cet accord-là est en passe de, sinon s'écrouler, en tout cas, de s'effriter, s'étioler?
En tout cas, je pense que l'Arabie Saoudite est moins importante aux yeux des Américains qu'elle ne l'était autrefois, pour des raisons pétrolières que vous venez d'évoquer. Mais ça a commencé avec, au moins, Obama. Obama voulait, alors pour des raisons prétendument idéologiques, parce que l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme. Oui, enfin, Obama, comme d'ailleurs tous les présidents américains, ont les droits de l'homme à géométrie variable. En revanche, l'Arabie Saoudite a fait la démonstration ces dernières années qu'en réalité, et manifestement là encore, là aussi, qu'elle était incapable, un, de tenir son propre territoire et de le défendre, en dépit des achats absolument hallucinants en armement, et notamment en armement sophistiqué, hein, que l'Arabie Saoudite pratique auprès des Américains depuis des décennies, qu'elle ne sait pas faire la guerre au Yémen, et c'est le moins qu'on puisse dire, là encore avec des formations, des équipements et des armements occidentaux, et trois, qu'elle joue une politique, allez, parfois peut-être un petit peu pousse au crime, notamment avec le face au Qatar et face de façon générale à l'Iran et à ses alliés. Deuxième point, Trump, lui, il entre en campagne électorale et il sait que l'opinion américaine ne lui pardonnerait en aucun cas le moindre retour d'un cercueil de soldats américains tombés dans la région, pour quelque chose que les Américains ne voient absolument pas comme essentiel. Enfin, dernier point, c'est toujours on en revient à ça, c'est le pétrole, c'est l'hydrocarbure. Hein. Je ne vais pas vous apprendre, et pas non plus à vos auditeurs, que les Américains sont redevenus, et ça en quelques années, enfin c'est une vraie révolution énergétique, les premiers producteurs d'hydrocarbures au monde. Alors si vous voulez, quand vous mettez tout ça dans la corbeille de mariage, bah, au fond les Saoudiens sont peut-être moins importants. J'ajoute un dernier point si vous le permettez. D'autres États, alors très proches, moins puissants certes, mais qui pourraient peut-être le devenir demain, je pense évidemment aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui.
On va en parler.
Sont très sollicités, pas seulement par la France, puisque c'est notre allié officiel dans la région, mais par les Américains qui finalement verraient la politique des Émiratis comme peut-être moins erratique que celle en vigueur à Riyad.
On va parler évidemment des Émirats Arabes Unis. David Rigoleros, il y a plusieurs points là évoqués par Frédéric Ancel. Peut-être que je vais vous laisser revenir librement sur la question de savoir si on est en train d'assister à une forme de prise de distance de Washington et de Riyad. Et puis aussi, un étonnement quand même très fort. On parle là d'un drone. Alors, vous nous direz ce qu'on sait exactement et ce qu'on ne sait pas de cette attaque. Mais on parle quand même d'installations pétrolières saoudiennes extrêmement importante, et visiblement Riyad n'a pas eu les moyens d'empêcher cette attaque de drone, ce qui en dit beaucoup sur la vulnérabilité de son propre territoire. Comment se fait-il qu'on puisse attaquer comme ça sur son territoire des installations si stratégiques?
Oui, c'était l'objectif d'ailleurs du ciblage de cette attaque, hein. Évidemment, c'était de montrer d'abord la vulnérabilité de l'Arabie Saoudite, malgré tous les achats d'armement qui ont pu être faits en dizaines de milliards de dollars ces dernières années, avec un record l'année dernière. Et donc, ça soulève la question, effectivement, de la pertinence de la protection de l'espace aérien. Bon, avec une modification, c'est-à-dire qu'il y a une banalisation des drones et de la balistique qui n'existait pas il y a encore quelques années. Mais au regard de ce qui s'est passé, ça pose quand même le problème, effectivement, la sécurisation de l'espace aérien, malgré les achats, notamment les patriotes américains, le système TAD sur lequel les Saoudiens se sont engagés financièrement pour la protection du ciel, les AWACS, etc. Et donc ça pose en arrière-plan aussi la question du matériel américain par rapport aux Russes. D'ailleurs, le président Poutine a eu beau jeu d'offrir ses S-300, S-400 justement aux Saoudiens. Mais sur le fond...
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite n'est pas en mesure de se prémunir contre les attaques de drones.
Mais Bah, c'est, de toute façon, les attaques de drones sont très difficiles hein, à gérer parce que justement, ce sont pas des missiles balistiques qui sont identifiables facilement. Il y a tout un panel de vecteurs, donc c'est très compliqué. Il n'en reste pas moins que il y a des trous dans la raquette, c'est clair.
Je poursuis un tout petit peu avec vous et ensuite je vous redonne la parole, Frédéric Ancel. Vous connaissez particulièrement l'Arabie Saoudite et le régime saoudien. Alors, il se trouve que en fin de semaine dernière, on a engagé un certain nombre de ripostes. Alors, on ne sait pas exactement quoi, mais l'Arabie Saoudite a dit qu'elle avait ciblé des sites rebelles houthis, parce que a priori, c'est quand même les houthis qui ont revendiqué cette attaque. Est-ce que là aussi, vous diriez que Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, fait montre d'une certaine frilosité, que tout cela est calculé? Enfin, comment se fait-il qu'on n'ait pas là une riposte beaucoup plus prononcée?
Le problème, c'est que le roi est nu. C'est-à-dire que Mohamed Bin Salman, dans toutes les entreprises à caractère militaire qui ont été engagées à son initiative, le résultat est quand même largement sujet à caution.
Vous faites référence au Yémen.
Il y a le Yémen d'abord depuis avril 2015, effectivement, qui était de son initiative, hein, puisque en tant que jeune ministre de la Défense, c'était aussi une manière de se positionner en interne. Mais le problème, c'est que le résultat est un désastre, c'est une impasse stratégique. La question du boycott du Qatar, on peut pas dire non plus que ça soit une réussite avérée. Donc il y a un isolement, et puis effectivement la vulnérabilité posée par ces attaques. Et le sentiment, et c'est là où il y a une vraie inquiétude à Riyad, effectivement, par rapport au pacte du Quincy, qui normalement a été renouvelé en 2005, hein, théoriquement, selon des modalités dont on n'a pas toutes les clauses, mais incontestablement, les États-Unis se désengagent sur le fond, c'est-à-dire ça peut être un peu progressif, mais ça n'a pas commencé avec le président Donald Trump, c'était déjà avec Obama, avec son pivot en Asie, et je dirais même avec George Bush, puisque à l'époque Dick Cheney avait justement entamé une stratégie d'autonomisation énergétique dès le début des années 2000 qui s'est mise en place progressivement qui a été renforcée par Obama, parce qu'on parle des gaz de schiste, mais c'est pas le Donald Trump, c'est Obama qui a lancé cette politique. Et donc d'une certaine manière Donald Trump récolte les fruits de ce désengagement de long terme.
Frédéric Ancel, est-ce que aujourd'hui Mohamed Ben Salman est fragilisé politiquement? La réponse est évidemment oui, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui à Riyad, on s'interroge sur l'avenir politique de cet homme-là?
C'est un régime qui, à certains égards, perd son sang-froid. On l'a vu avec l'affaire Khashoggi, on l'avait vu lors de la séquestration, il n'y a pas d'autre terme, d'un premier ministre libanais, libéré finalement, il n'y a pas d'autre terme, par un président français. La guerre au Yémen, dont on vient de rappeler qu'elle est désastreuse et qu'elle marque là aussi, effectivement, quelle est la signature de MBS, comme on l'appelle. Le problème, c'est que, alors, le roi est nu, bien sûr, sauf que dans ce système archi-patriarcal, monarchique, évidemment absolu, hein, de droit divin, c'est très compliqué hein, de mettre au placard un prince héritier, et puis pour mettre qui à la place, d'une part, et d'autre part, pour faire quelle politique? Et aujourd'hui, je ne suis pas certain que les stratégistes saoudiens, si tant est qu'il y en ait de sérieux, soient capables de mettre une alternative en avant. Hein. Et on est toujours dans cette opposition frontale et absolue avec l'Iran, pour des raisons à la fois institutionnelles, parce que le modèle institutionnel du régime saoudien est évidemment aux antipodes de celui proposé par Téhéran pour l'ensemble du monde musulman. Il y a bien sûr une rivalité pétrolière, une rivalité culturelle dans une certaine mesure, hein, persanité et arabité, comme j'aime bien les appeler, et puis bien évidemment chiite sunnite. Et là, je ne vois pas très bien au-delà de la personne de MBS qui manifestement échoue. Je ne vois pas très bien quelle est l'alternative importante, sérieuse, qui est envisagée en ce moment.
Pas d'alternative, David Rigoulet-Rose, et puis ensuite on évoquera la question du Yémen.
Pas d'alternative dans la mesure où il a fait le ménage aussi autour de lui, c'est-à-dire qu'il a quand même modifié à son profil le système institutionnel, c'est-à-dire jusqu'à présent c'était une logique horizontale, hein, de frère à frère. On est passé là avec lui potentiellement à la deuxième génération, c'est-à-dire que jusqu'à présent c'était tous les fils directs du roi fondateur, c'est plus le cas, et il a d'une certaine manière, il y a eu le monopole d'un lignage qui s'est imposé, celui de Bin Salman, et ça fait beaucoup d'ennemis en même temps, dans la mesure où il a mis de côté tous les clans. Traditionnellement, il y avait un système d'équilibre. On l'a vu justement avec l'affaire du Ritz-Carlton. Et donc, il a monopolisé effectivement tous les pouvoirs, mais en même temps, il se retrouve très seul. Et c'est sa force et sa faiblesse, évidemment, surtout dans le système, dans la configuration actuelle.
On a commencé cette émission avec ces attaques des installations pétrolières saoudiennes. A priori, c'est les Houthis qui seraient derrière, puisque, en tout cas, ils l'ont revendiqué comme tel. Est-ce que c'est bien le cas, David Rigoulet-Rose? Et il se trouve que, par ailleurs, en fin de semaine dernière, les Houthis ont proposé une trêve. Alors, est-ce que c'est une véritable proposition? Est-ce qu'on va doucement vers quelque chose qui ressemble à un retour à la paix du côté du Yémen, et jusqu'où tout cela est piloté ou non par Téhéran? David Rigoulet-Rose, ensuite Frédéric Ansel.
Alors, pour ce qui est des frappes, effectivement, la revendication officielle a été faite par les Houthis. Mais il y a quand même beaucoup de doutes compte tenu du caractère très préparé, très précis. La balistique Houthi n'a pas encore atteint un seuil technologique qui permettrait une entreprise aussi importante et aussi précise. D'aucuns donc évoquent plutôt des tirs venus d'Irak, émanant de milichistes, Ashtar al-Shabib notamment, pro-iranienne, voire depuis l'Iran. Alors il y a quand même un gros point d'interrogation, parce que ce serait un gros risque pris par l'Iran quand même, mais en tout cas manifestement, il y a un message qui a été donné et qui est passé. C'était l'objectif, effectivement. On voit que c'est repris.
Un message émanant d'où?
D'Iran, bien sûr. D'ailleurs, le président Rouhani n'a pas hésité à le présenter comme tel, même s'il a dénié toute responsabilité directe en la circonstance.
Frédéric Ansel.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que le président iranien, qui d'ailleurs, effectivement, je rejoins ce qu'a dit David Rigoulet-Rose, doit lui-même être un très bon joueur d'échecs, a parlé des Yéménites. Il n'a pas parlé des Houthis, il a parlé des Yéménites. Comme si c'était le Yémen qui se défendait, l'intégralité du Yémen, qui se défendait contre l'Arabie Saoudite. Alors c'est intéressant parce que l'Arabie Saoudite a toujours considéré le Yémen comme son arrière-cour, d'une part. D'autre part, si tant est dire qu'elle en ait respecté et reconnu les frontières. Deuxième point, on a un sentiment, une représentation au sens lacostien du terme chez les Saoudiens, d'être encerclé. Et c'est d'autant par des forces hostiles et notamment chiites. Et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée au pouvoir en Irak. Et là aussi, je souscris au diagnostic du départ des tirs, puisque l'Irak aujourd'hui est dominé par les chiites. Alors quand vous ajoutez à ça que Bachar el-Assad, finalement, grâce à l'Iran essentiellement, est resté au pouvoir et qu'il est d'extraction lointainement chiite, et qu'au sud maintenant, vous avez des Houthis soutenus par l'Iran, vous regardez une carte, et là les Saoudiens perdent, encore une fois, je reprends cette expression, ils perdent leur sang-froid et ils sentent et ils savent qu'ils sont sur le reculoir. Autrement dit, aujourd'hui, si vous posez la question de savoir si aujourd'hui une proposition, une offre de paix émanant des Houthis ou d'ailleurs de Téhéran satisferait Riyad, à titre personnel, je n'y crois pas. Simplement parce que le rapport de force, il n'est pas en faveur de l'Arabie Saoudite et que par conséquent, les Saoudiens cherchent au moins à remporter une victoire, alors politique, énergétique, militaire, que sais-je encore, pour accepter une telle offre.
J'entends bien, mais quand même, il y a aussi tout un contexte, tout un environnement qui pourrait laisser penser que peut-être, finalement, le temps de la paix est venu, parce qu'on n'a pas encore parlé des Émirats Arabes Unis, mais il se trouve que là aussi, ça fait maintenant 4 ans qu'on est en guerre. Évidemment, la place de l'armée émiratie dans le dispositif est absolument centrale. C'est le seul pays qui a envoyé des soldats sur le sol, et MBZ, celui qu'on appelle MBZ, Mohamed Ben Zayed, cette fois, qui dirige les Émirats Arabes Unis, a dit, lui, qu'il fallait maintenant se retirer, que c'était la fin. Est-ce que finalement, on n'a pas là le début des conditions d'un retour à la paix? David Rigoulet-Rose.
C'est difficile à dire parce que, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le MBZ, donc, est un géopoliticien beaucoup plus avisé que MBS. Il perçoit beaucoup mieux les rapports de force. Il a estimé, à tort ou à raison, que le fait que le président Trump n'ait pas réagi après le drone abattu avait changé les.
En juin dernier.
Avait changé les données du problème et que il y avait une surexposition des Émirats en cas de conflit ouvert. Et donc, il a pris. Il a adopté une posture effectivement pacifiste, entre guillemets, en montrant qu'il souhaitait se désengager, alors partiellement, parce qu'en réalité, il y a des relais locaux, notamment auprès des sécessionnistes du Sud. Il a des mandataires également.
Et c'est un signal important, c'est la première fois qu'il le dit.
Oui, justement. Et ça fragilise d'autant plus Mohamed Bin Salman, qui se retrouve encore plus seul.
Alors, il est clair que les Émirats Arabes Unis jouent une politique très extrêmement intéressante. D'abord parce qu'ils ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. nous avons 9 chasseurs bombardiers, nous, je veux dire la France, hein, prépositionnés sur place au titre d'une alliance militaire, pas seulement culturelle. On parle souvent de Louvre et de la Sorbonne, c'est très bien, mais une alliance militaire qui date de 2009 aux Émirats Arabes Unis. Donc ils n'achètent pas qu'américains, premier point. Deuxième point, les seules victoires militaires de la coalition sont à mettre au Yémen, sont à mettre au compte, effectivement, des troupes émiraties, comme vous l'avez rappelé. Trois, on a l'impression que MBZ joue la nation et non plus seulement l'ensemble de clans et de tribus. Et à voir la manière, les symboles, les termes utilisés dans cette guerre, on a vraiment affaire à la volonté d'une intégration de type État-nation, telle que nous la connaissons en Europe, ce qui, me semble-t-il, est pourvoyeur de stabilité et de puissance. Et enfin, les dépenses émiraties sont traditionnellement moins somptuaires, sinon moins erratiques, que celles de l'Arabie Saoudite. Et enfin, les Émirats ont quand même, pardon l'expression, des billes en Iran. C'est-à-dire que vous avez tout de même, même en temps de crise, hein, un flux de relations qui est demeuré toujours relativement important entre les Émirats et l'Iran. Et puis enfin, concernant l'Arabie Saoudite, moi je vous dirais que même si MBZ quitte entre guillemets le front, vous savez, les coalisés, on va les appeler comme ça, contre la poussée chiite ou pan-chiite ou iranienne, sont très importants. Vous avez l'Égypte, vous avez le Koweït, vous avez Bahreïn qui est inféodé évidemment à l'Arabie Saoudite, et ça va jusqu'au Maroc. Donc je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui
en termes de force au sol, ça fait pas le poids face à l'armée émiratie.
Au Yémen,
par ailleurs, vous évoquez la question de l'Égypte. Compte tenu des troubles qui commencent à émerger du côté de l'Égypte, on va peut-être avoir d'autres préoccupations rapidement.
Militaire au Yémen, oui. Vous avez raison. Oui. En revanche, pour ce qui concerne la rivalité géopolitique dure globale entre Riyad et Téhéran, il n'est même pas sûr que Riyad s'arrête à la position de MBZ pour faire ses choix.
Alors, David Rigolero, on a replanté un petit peu le décor, c'était nécessaire, mais voilà dans quel paysage on se situe et dans quel paysage Emmanuel Macron débarque à New York pour cette Assemblée Générale des Nations Unies. Le président iranien sera là, le président américain aussi. Alors, on ne sait pas trop s'ils vont se rencontrer ou pas, mais a priori, Emmanuel Macron, lui, va rencontrer les deux. On ne sait pas exactement dans quel ordre, mais en tout cas, il y va, a-t-il dit, dans l'avion pour faire quelque chose. Est-ce qu'il peut faire quelque chose dans le dossier iranien Emmanuel Macron ?
Ah, il a déjà fait quelque chose. Alors évidemment, c'est relatif en termes de résultats. Il y a eu quand même il y a le précédent du sommet de Biarritz. Alors, même si c'était parallèle au sommet, mais enfin, c'était quand même... Il y avait un caractère publicitaire qui n'était pas contingent. C'était quand même une manière de marquer que la France s'engageait. Il souhaite être...
Oui, la France est passée en médiatrice, mais en réalité, il n'y a eu aucune avancée.
On peut pas totalement dire ça, c'est-à-dire que d'ailleurs on peut la réaction du président américain lorsqu'il était au sommet a pas été aussi virulente que certains pouvaient l'attendre. Donc c'est déjà en soi un signe et parce que
Emmanuel Macron avait demandé l'aval de Donald Trump pour faire venir le ministre des Affaires étrangères.
Pas uniquement, parce qu'aussi Donald Trump se rend compte qu'il est un peu piégé par sa stratégie et donc il a besoin lui de donner des gages à son électorat dans la perspective de la présidentielle. Il peut pas se permettre de lancer une opération militaire, donc ce que fait le président Macron peut éventuellement, il est dans une logique de deal, offrir une opportunité potentielle justement pour le regarder le bout du tunnel.
Frédéric Ancel, est-ce que effectivement Donald Trump est en train de se rendre compte que sa stratégie de la pression maximale avec l'Iran a échoué ?
En tout cas, la politique du fou au faible ne fonctionne pas. Il l'a tenté avec la Corée, vous vous souvenez, hein, c'est un vieux truc de Nixon et Kissinger,
c'est ça,
face au Vietnamien, d'ailleurs ça n'a pas du tout marché à l'époque, face au Vietcong, ça n'a pas marché. La théorie le schéma du fort au faible ne marche pas au début d'une campagne électorale, sans vouloir y revenir, c'est important voilà, de savoir que l'opinion publique n'accepterait pas aux États-Unis une guerre maintenant, bon, et surtout pas avec l'Iran. Et par conséquent, il est peut-être sûrement tenté de déléguer à certains de ses alliés une forme de pression. Ce serait une espèce de retenez-moi ou je fais un malheur. Et de ce point de vue-là, la France a une position extrêmement intéressante. D'abord, elle ne date pas de l'actuel tandem Macron-Le Drian qui est extrêmement présent au Proche-Orient. Je pense qu'on va y revenir. Mais souvenez-vous des négociations qui avaient précédé l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015. Là, c'était le tandem Hollande-Fabius, exactement, qui avait aux grandes dames d'Obama, on était un peu à front renversé,
complètement à front renversé,
plusieurs mois de retard. Mais oui, parce que on avait
Fabius
une
c'était le bad cop de l'histoire.
Et oui, mais parce qu'on avait, et à juste titre, à mon avis, une position plus ferme vis-à-vis des Iraniens. Maintenant que l'accord a été signé et bien signé, qui est reconnu par le monde entier comme un bon accord, sauf évidemment par Donald Trump, eh bien
ça c'est discuté. Hein.
Aujourd'hui, les Russes, les Chinois, bien sûr, mais même les Européens considèrent quand même que l'accord globalement, c'est mieux que pas d'accord. Et regardez ce que fait Emmanuel Macron. Flanqué de Jean-Yves Le Drian, il tente et dès son arrivée au pouvoir, lorsque M. Trump était aux Champs-Élysées, voir le défilé de nos troupes, il tente de le modérer, de le faire rester dans l'accord, quitte à le rendre plus sévère vis-à-vis des Iraniens en impliquant leur installation de base en Irak, en Syrie, etc. Alors évidemment, ça marche pas forcément, mais c'est pas parce que ça marche pas que un, faut pas le tenter, et que deux, ça marchera pas demain. Et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez, la France. Tant sur le plan militaire que sur le plan politique, est super présente au Proche et au Moyen-Orient. Tout à l'heure, j'évoquais les Émirats Arabes Unis, mais pensez à la Jordanie. Nous avons une dizaine de chasseurs bombardiers stationnés en Jordanie. Les canons Khalsar ont fait énormément en Irak et en Syrie contre Daesh. Et j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment, avec le Brexit, un effet collatéral avec le Brexit, et avec un jeu allemand qui n'est pas celui de la puissance, l'Allemagne refuse de jouer la puissance globale, la France est en train de se préoccuper de la souveraineté de son outil militaire, de son outil de défense. Et c'est quelque chose que finalement, on retrouve avec les questions proche-orientales, parce qu'on voit bien que la France, sur le plan militaire, s'inscrit juste derrière les États-Unis comme acteur absolument majeur.
David Rigoulet-Rosy, vous vouliez réagir. Oui. Je vais vous laisser réagir librement, mais je me permets juste d'introduire peut-être une question, parce que, évidemment, ici, on dit souvent que finalement, c'est tout à fait louable de la part du président français d'essayer de se placer comme ça en médiateur. Frédéric Ancel a raison de rappeler que avant que l'on trouve cet accord de 2015 sur le nucléaire iranien, en réalité, les positions françaises étaient très différentes et Laurent Fabius mettait beaucoup de pression pour que cet accord soit plus dur. Est-ce que finalement, aujourd'hui, ça serait pas le moment précisément pour la France, non pas de se placer en médiatrice, mais de mettre la pression sur l'Iran? Parce qu'on voit bien que là, il va y avoir très probablement une forme de radicalisation de l'Iran. Elle frappe, il se passe rien, ou pas grand chose, ni du côté américain, ni du côté saoudien, ni du côté des Émirats. Donc, est-ce que c'est pas le moment pour la France de lui dire attention, parce que si vous continuez, on vous lâche aussi?
Oui, mais de toute façon,
David Rigoulet-Rosy,
c'est évidemment un jeu interactif permanent. Mais justement, par rapport à la position française, vous évoquiez lors de la signature du contrat de juillet 2015, il y a le principe du snapback qui avait été établi à la demande française et qui était la réintroduction automatique potentielle des sanctions en cas d'infraction caractérisée justement du signataire, en l'occurrence l'Iran. Donc il y a c'est une épée de Damoclès de toute façon s'il y a un retour à l'ONU. Et ce qui est intéressant de la part du président Donald Trump, c'est que il envisage aujourd'hui quand même un retour à l'ONU, et notamment pour la question balistique. Or, le président français avait anticipé l'impasse actuelle. Il avait parlé des quatre piliers et lui avait dit ne sortez pas de l'accord. Il est imparfait, il y a des angles morts, il y en a. Effectivement, les détracteurs de l'accord, c'est pas toujours infondé, il y avait des angles morts. Mais il était le moins mauvais en la circonstance, et le président Macron avait dit, il y a quatre piliers, maintien de l'accord, revoir les sunset clause, c'est-à-dire l'échéance de 2025 pour prolonger cet accord, pour qu'il soit pérennisé, qui n'était pas prévu, évidemment, par la date initiale. Troisièmement, la question du balistique, qui fait partie de la résolution 2231, qui était signée justement juste après qui a intégré le JCPOA, donc l'accord sur le nucléaire. Et enfin, la question, effectivement, de la politique iranienne dans la région, qui est le problème de la stabilisation de la région. Donc, finalement, on en revient à ça. Et aujourd'hui, il y a la réunion de l'Assemblée de l'ONU. Le président Donald Trump, finalement, est obligé de tenir compte de ce qui avait été proposé par le président français. Alors on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'avec le recul, finalement il avait anticipé les difficultés auxquelles on se trouve aujourd'hui, qui auraient pu être sans doute minimisées si on avait adopté cette stratégie.
Frédéric Ancel, quelles conséquences de tout cela pour l'Irak, dont on parle plus beaucoup? Vous le disiez tout à l'heure, faut rappeler qu'en Irak on a effectivement un régime qui est pro-chiite. En tout cas, on a un président qui est effectivement... Non, pardon, le président justement est un kurde sunnite, mais le premier ministre qui est le chef de l'exécutif est lui bien chiite et donc a des liens extrêmement forts avec Téhéran. On a donc un pays qui est un peu tiraillé entre en réalité des liens assez proches de fait et avec les États-Unis et avec l'Iran. Comment est-ce que vous voyez l'avenir politique de ce pays-là, sachant qu'évidemment, peut-être rappelons quand même que lorsqu'on décide du retrait des soldats américains, s'ensuit évidemment une guerre civile absolument terrible. Comment est-ce que vous voyez les choses là ?
Pour moi, l'Irak, c'est l'une des illustrations, l'un des paradigmes de l'affaiblissement, voire de l'effondrement de l'État-nation dans cette zone arabo-musulmane. On pourrait d'ailleurs évoquer aussi l'Afrique subsaharienne, mais notamment cette zone arabo-musulmane, révélée évidemment par 2003, hein, par la guerre foireuse de Bush, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, par le printemps arabe et ses suites. Regardez à quel point les Irakiens aujourd'hui sont d'abord kurdes, d'abord chiites arabes et d'abord sunnites arabes, avant que d'être irakiens. Regardez à quel point au Yémen, on est revenu à ce qui prévalait en termes de rapports de force sociétaux auparavant, et j'allais dire avant la colonisation, c'est-à-dire des rapports de force claniques et tribaux. Regardez ce qui se passe en Libye. La Libye aujourd'hui revient à l'avant 1911 en quelque sorte.
Ça, c'est le résultat de l'interventionnisme occidental ?
Non, c'est l'illustration de... Non, ça existait avant. Vous savez, l'Irak est une création britannique de 1930 tout de même. Hein. Alors je ne dis pas que l'Irak n'a pas le droit d'exister. L'Irak est un État reconnu, c'est très bien. Mais la représentation sociétale et identitaire dans ces pays-là, mais on pourrait aussi ajouter le Sinaï égyptien, on pourrait ajouter d'autres zones de ce type-là, elle est d'abord clanique et tribale. Et pour moi, si vous voulez, l'affaiblissement ou le réaffaiblissement de l'État-nation et ou le retour au clanisme et au tribalisme, pensez également à la Somalie qui fait partie de cette région. En tout cas de là, ça marque tout de même une forme d'instabilité et ça introduit une forme d'instabilité absolument considérable, sauf à imaginer, je vais peut-être faire réagir, sauf à imaginer un État-nation kurde, un État-nation arabe, irakien, chiite, un État-nation qui serait à cheval entre l'Est de la Syrie et l'Ouest de l'Irak, c'est-à-dire sunnite, bédouin, pour faire court. Et je pense qu'on y va. Je pense qu'il y aura une recomposition et que l'Irak en est certainement l'illustration, la traduction, le paradigme le plus évident.
Vous y croyez, David Grigoleros, parce que cette option que met en avant Frédéric Ancel, c'est une option dont on parle beaucoup, évidemment, lorsque les Kurdes ont aidé les Occidentaux pour se débarrasser de Daesh, même si évidemment on pourra en discuter qu'au fond Daesh, au moins les conditions de la réémergence sont encore là, mais on a beaucoup évoqué l'hypothèse de cette émergence de ce fameux État kurde. Ça fait d'ailleurs très longtemps qu'on en parle, plus d'un siècle qu'ils l'attendent, qu'on leur avait même promis. Vous y croyez encore ? Parce qu'on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les États-Unis sont plus du tout disposés à l'envisager.
Oui, mais ce sont des processus longs.
Et long, plus d'un siècle.
Oui, mais dans cette région, le temps n'est pas perçu de la même manière. Nous sommes dans le temps court des démocraties électorales. Et là, on est dans des processus longs et structurant, mais long, sur le long terme.
Donc vous y croyez, l'émergence d'un État
terme,
kurde, ouais.
À long terme, il y aura probablement un État kurde. Après, les modalités, les frontières, c'est autre chose, parce qu'il y aura des conflits, etc. Mais le substrat kurde est préexistant. Il y a aussi d'autres problèmes. Il y a la question du Chiistan. Donc, quand on regarde les zones pétrolières, elles sont toutes sur des régions chiites. Et là, ça soulève la question de la vulnérabilité également du Royaume d'Arabie.
Même en Arabie Saoudite.
Avec la question, la région, la province orientale du Hassan notamment. Et c'est pour ça que c'est doublement, ce qui s'est passé est doublement problématique pour les Saoudiens.
Bah, vous avez aussi du pétrole dans le Kurdistan irakien. Et précisément, si par exemple Bagdad accordait encore davantage d'autonomie à cette région-là, on pourrait imaginer que finalement cette région n'ait pas forcément envie de participer à la construction d'un futur État kurde.
Oui, mais d'ailleurs, il y a une autonomisation en termes de politique pétrolière de la part du Kurdistan.
Absolument.
Depuis longtemps, avec la Turquie, par exemple.
Précisément, ça ne va pas forcément dans le sens d'une revendication d'un État kurde.
Pas dans l'immédiat, mais à long terme certainement. Et de toute façon, le vrai problème qui va être posé, c'est la question du Sunnistan. C'est-à-dire toutes ces populations sunnites justement à cheval sur plusieurs pays, s'il y a une recomposition qui se fait, elle se fera sur un certain nombre de critères ethno-confessionnels, et là il y aura une fragilité de la région.
Frédéric Ancel.
Oui, vous savez, la nation précède souvent l'État, hein, je veux dire la représentation nationale, hein, et regardez à quel point les Kurdes qui se battaient, vous avez eu raison de le rappeler, et qui n'étaient pas unis, et à qui on a promis pendant des décennies beaucoup de choses, ils se battaient jusqu'aux années 60-70 en Irak, hein, et il n'y avait pas de conscience d'une véritable nation kurde. Depuis Kobané, je pense que c'est différent. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans le nord de la Syrie et il s'est passé quelque chose en Irak. David Roulet-Rose le rappelait il y a un instant que on a affaire déjà aujourd'hui à une véritable autonomie kurde en Irak. Demain, on ne sait pas du tout si le régime au pouvoir en Iran se maintiendra et par conséquent, l'important c'est qu'il y ait déjà la construction d'un substrat effectivement et d'une idée nationale kurde. Et puis ensuite, l'État, on verra bien, mais je suis d'accord avec ce qui a été dit.
Alors, si on regarde toujours un peu ce qui se passe sur le temps long, et l'une des choses qu'on observe depuis quelques années, c'est évidemment la montée en puissance de la Russie dans la région. Je vous propose d'écouter Vladimir Poutine, c'était il y a quelques jours.
En ce qui concerne l'aide à l'Arabie Saoudite, il convient de rappeler que le Coran sacré évoque l'inadmissibilité de toutes sortes de violences autres que pour protéger les siens. Pour qu'ils puissent donc défendre les leurs et leur pays, nous sommes prêts à octroyer l'aide appropriée à l'Arabie Saoudite. Il suffit que les autorités politiques saoudiennes adoptent une décision étatique sage, comme celle prise par le passé par les dirigeants iraniens qui avaient acquis à l'époque des S-300, ou comme le président Erdogan qui a acheté à la Russie les systèmes ultramodernes S-400. Ils protégeront solidement toute infrastructure saoudienne.
Voilà, David Rigolero, ça c'est vraiment le fruit de cette grande évolution dans la région. Vladimir Poutine qui propose tout simplement des armes russes aux Saoudiens. Comment vous interprétez la chose? Qu'est-ce que ça vous semble révéler précisément de la montée en puissance de Moscou dans cette région-là et de ses conséquences politiques? Est-ce que c'est seulement une provocation de la part de Poutine? Ou est-ce que réellement il y a quelque chose derrière ça? Et on pourrait imaginer, vous parlez tout à l'heure de temps long, que d'ici quelques années, 20 ans, 30 ans, que sais-je, qu'en réalité les alliances... se bascule et qu'on passe d'une alliance Riyad-Washington à une alliance Riyad-Moscou, pourquoi pas ?
En tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer, effectivement. Concernant les ventes d'armes, il y a un précédent avec la Turquie d'Erdogan.
Absolument.
Donc, c'est pas forcément surprenant de la part de Moscou de poursuivre sur sa lancée. Ça permet d'ailleurs de faire un peu, entre guillemets, la nique à Washington en présentant des matériels qui seraient particulièrement opérationnels. Sur le fond, il y a incontestablement un retour de la Russie, mais géographiquement, la Russie n'est pas étrangère non plus à cette région, donc c'est pas forcément surprenant. L'affaiblissement de la Russie, c'était dans le monde post-guerre froide. La Russie profite d'un retrait relatif de la puissance américaine. Elle en profite. Elle est plus déterminée dans ses choix. On l'a vu avec la Syrie de Bachar el-Assad par rapport aux hésitations occidentales. Et puis, effectivement, c'est pas forcément surprenant de voir que, notamment au niveau de l'OPEP, OPEP+, c'est-à-dire entre l'Arabie Saoudite et la Russie, une forme d'alliance objective. À défaut d'être subjectif entre les deux, d'autant plus que le caractère autocratique des deux personnages n'est pas antinomique. Donc effectivement, la Russie est de plus en plus présente là où on l'attend pas, je dirais même par rapport à Israël, parce qu'il y a une perception notamment de Benjamin Netanyahou du lien de plus en plus essentiel avec Moscou aujourd'hui pour préserver les intérêts israéliens compte tenu de ces incertitudes qui prévalent avec l'administration américaine aujourd'hui.
Même si Netanyahou s'est en passe de devenir le passé pour Israël, hein. Benny Gantz pourrait bien effectivement devenir le prochain Premier ministre.
Mais ça ne changera pas forcément les données.
Ouais. Alors, le passé, oui, mais pas celui de M. Lieberman. Et le faiseur de roi en Israël, qui est non seulement russophone, mais qui est un authentique ami de Vladimir Poutine, comme diraient les jeunes, c'est pas du mytho, on l'a vu à plusieurs reprises, lui sera le faiseur de roi, autrement dit, et il aura manifestement un ministère régalien très important, sans doute la défense ou les affaires étrangères. Par ailleurs, je pense que la Russie est effectivement forte de nos faiblesses. Pour moi, la Russie, c'est une grande puissance pauvre. Dans grande puissance pauvre, vous avez grande puissance, mais vous avez pauvre. C'est-à-dire que en Syrie, elle a joué de la faiblesse auto-organisée par Barack Obama en 2013, lorsqu'il s'était assis sur sa propre ligne rouge. Bon, avant, il n'y avait pas de chasseurs-bombardiers Sukhoi en Syrie. En Irak, en Arabie Saoudite, aujourd'hui, Monsieur Poutine fait celui qui a tout le matériel dans la R16, cette fois-ci je cite Coluche, à la fois en honnête courtier en quelque sorte, celui qui propose des matériels enfin efficace et en même temps il se paye le luxe de jouer l'islamologue et il raconte ce qui est encore, enfin, c'est extraordinaire, mais effectivement il est fort de nos faiblesses et il est fort de la faiblesse aujourd'hui des Saoudiens et de la faiblesse de la volonté dont on parlait en début d'émission des Américains de continuer à soutenir mais contre vents et marées l'Arabie Saoudite.
On est avec vous, Frédéric Ancel, et vous, David Rigolet-Rose, dans cette série consacrée au grand chantier diplomatique, alors que s'est ouvert la 74e Assemblée Générale des Nations Unies, la poudrière du Golfe ou le Moyen-Orient au seuil de l'embrasement. Vous parliez de la série, justement, on va en parler.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous avons dû supporter les frappes aériennes pendant 3 jours. C'est la première fois que nous subissons des bombardements aussi puissants. Les gens continuent d'être déplacés et quelques 1500 personnes vivant dans le nord du gouvernorat de Hama et d'Idleb auraient fui hier. Entre le 1er mai et le 18 août de cette année, 576 000 mouvements de personnes déplacées ont été enregistrés dans le nord-ouest du pays. De nombreuses personnes ont été déplacées jusqu'à 5 fois et certaines ont dû déménager jusqu'à 10 fois.
Voilà, alors que l'offensive sur la région d'Idlib se poursuit, les Russes et les Chinois ont à nouveau mis un veto à une résolution de l'Allemagne, la Belgique et le Koweït imposant un cessez-le-feu dans la région. C'est le 13e veto russe dans ce conflit syrien, un de plus qui illustre évidemment la profonde division de ce Conseil de sécurité dans ce dossier. Bonjour Michel Duclos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes un diplomate, ancien ambassadeur de France en Syrie, auteur notamment de cet ouvrage « La longue nuit syrienne » qui était paru aux éditions de l'Observatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michel Duclos, en quelques mots, pourquoi les Russes ont rejeté cette proposition de cesser le feu ? Qu'est-ce qui aurait peut-être convaincu la Russie pour accepter de le voter ? Est-ce que finalement c'est un refus de principe ou est-ce qu'on pourrait imaginer, et sous quelles conditions, qu'ils acceptent cette résolution, Michel Duclos ? Une résolution, en tout cas.
Il leur est arrivé quand même d'accepter certaines résolutions, n'est-ce pas ? Mais la ligne de conduite des Russes en Syrie, c'est l'option militaire. Ils pensent qu'ils peuvent gagner, que leur poulain, M. Assad, peut reconquérir l'ensemble du territoire par la force. Et à Idlib, c'est ce dont il s'agit. Parfois, il y a des arrêts de l'offensive, parfois il y a des accords avec la Turquie pour calmer les choses, à d'autres moments, ils reprennent l'offensive. Et nous sommes dans une période où ils ont décidé, d'accentuer leur offensive pour récupérer au moins une partie de la province. Donc, ils n'ont aucun intérêt, ni aucune volonté de souscrire à un cessez-le-feu.
Oui, sauf que tout le monde n'est pas forcément favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'idée d'une offensive sur Idlib. Quand je dis tout le monde, en particulier la Turquie. On sait que, alors que l'ONU avait totalement échoué à rassembler les conditions de la mise en place d'un processus de retour à la paix, Moscou avait lancé son propre processus d'Astana avec l'Iran et la Turquie. Or, il se trouve que précisément, là, ils se sont rencontrés très récemment, on a évoqué la nécessité de faire respecter le calme dans la région. Mais on voit bien des dissensions très fortes entre d'un côté la Russie et la Turquie. La Russie qui prône effectivement d'aller encore plus loin sur le plan militaire, alors que la Turquie, elle veut l'éviter à tout prix, et on le comprend, parce que ça voudrait dire pour elle un nouvel afflux de réfugiés sur son territoire. Michel Duclos.
Oui, si vous voulez, il y a...
Alors est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre Erdogan et Poutine ?
Oui, il y a un partenariat de travail, de répartition des tâches entre la Russie et la Turquie, avec parfois de temps en temps des pauses. Les Turcs obtiennent des concessions en échange de concessions qu'eux-mêmes font. Sur Idlib, ils ont obtenu de la part des Russes les mains libres pour certaines opérations qu'ils voulaient mener contre les Kurdes, en échange de quoi ils avaient pris des engagements vis-à-vis de la Russie. Mais le fait, si vous voulez, majeur, c'est que maintenant, Monsieur Erdogan, en s'étant beaucoup brouillé avec ses alliés atlantiques et en s'étant beaucoup engagé dans les relations avec Poutine, est dans une situation de dépendance à l'égard de Poutine sur Idlib. Il peut naturellement dire non, je ne veux pas. D'ailleurs, il l'a fait dans une certaine mesure. Et dans une certaine mesure, Poutine en tient compte, parce qu'il veut effectivement ne pas brusquer son partenaire, dont il est trop heureux de le séparer de l'Alliance Atlantique. Une distance entre l'Alliance Atlantique et lui, mais à la fin des fins, il continue quand même son offensive en grignotant petit à petit le territoire d'Idlib, et cela, contre cela, Monsieur Erdogan ne peut pas grand-chose. Il peut obtenir des délais, il ne peut pas obtenir le changement de direction de ce qui se passe à Idlib.
Et alors, dans tout cela, Michel Duclos, l'Iran, parce qu'on voit bien donc les divergences entre Moscou et Ankara, mais on a le sentiment que, en tout cas, pour le moment, Téhéran est un peu, pas à la marge, mais un peu en retrait.
Téhéran est en retrait sur Idlib pour différentes raisons. D'abord parce que les Iraniens ont moins de moyens maintenant du fait de la politique américaine. Ensuite, ils ne souhaitent pas multiplier les fronts. Ils ont déjà avec Israël pas mal de problèmes. Et puis eux-mêmes sont à la manœuvre dans le Golfe. Donc ils estiment que pour l'instant, en Syrie, c'est pas le moment d'en rajouter. Mmh. Il est possible aussi que les Turcs ne souhaitent pas que sur Idlib, les Iraniens s'avancent parce que la Russie cherche à montrer que c'est elle qui est aux commandes en Syrie. Et donc, mon sentiment, si vous voulez, c'est qu'à un moment ou à un autre, les Iraniens ressurgiront en raison des faiblesses des capacités des forces syriennes rattachées à Assad. Mais pour l'instant, effectivement, les Iraniens font plutôt profil bas.
Vous restez avec nous, Michel Duclos. J'ai encore une ou deux questions à vous poser, mais je voudrais faire réagir nos invités, Frédéric Ancel, David Rigolet-Rose. Frédéric Ancel.
Oui, dans le rapport entre la Russie et la Turquie, on a souvent tendance, par abus de langage ou peut-être par paresse intellectuelle, à les mettre sur un piédestal, mais ce n'est pas exact. C'est Lilliput et Gulliver. Enfin, la Russie a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de relais, de réseaux d'influence maintenant, hein, notamment via les partenaires iraniens en Syrie qu'en Turquie. Et puis on oublie toujours le Caucase. On oublie le Caucase qui se trouve juste, enfin, j'allais dire derrière. C'est pas très géographique comme propos, mais où la Turquie et la Russie sont alliés à des États en guerre entre eux. La Russie est alliée à l'Arménie, tandis que la Turquie est alliée à l'Azerbaïdjan, et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, bah c'est simple. Le statut est celui de la guerre. Bon. Donc je pense que, outre des intérêts à la fois très picrocolins d'un point de vue géographique, là on parle quand même d'espace extrêmement petit et très provisoire, je pense que la Turquie et la Russie n'ont pas tant d'intérêt que cela à moyen et long terme, et j'ajoute surtout que la Russie a beaucoup plus de moyens que la Turquie.
David Rigolet-Rose.
Oui, incontestablement. Là, il se trouve que il y a eu une forme il y a eu un deal qui a été établi sur la région proprement d'Idlib, qui effectivement est un abcès de fixation pour finaliser la reconquête par le régime de l'essentiel de son territoire. Le deal, c'était dans le processus d'Astana et surtout de Sochi, hein, puisqu'il y a une réunion entre Erdogan et Poutine, c'était je vous laisse gérer momentanément Idlib avec des points militaires, mais vous devez tutélariser les djihadistes de la région. Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire, parce que notamment Ayatollah al-Sham a refusé effectivement la tutelle turque, et donc l'échec, d'une certaine manière, avéré d'Erdogan, permet de laisser les mains libres effectivement à une opération de grignotage, de reconquête militaire, ce qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Alors Michel Duclos, est-ce que les Nations Unies peuvent reprendre la main? On est là en pleine Assemblée Générale des Nations Unies. Récemment, le secrétaire général Antonio Guterres a annoncé que les différentes parties syriennes et l'ONU étaient parvenues à un accord de principe sur la composition d'un comité constitutionnel chargé d'établir une nouvelle constitution pour la Syrie. Ça fait des mois qu'on parle. C'est un comité qui est composé de 150 personnes. Il y a un tiers choisi par le régime, un tiers de l'opposition et puis un tiers désigné par l'ONU. Est-ce que la mise en place de ce comité, c'est le signe d'un frémissement du côté de l'action onusienne? On pourrait reprendre la main là maintenant? Michel Duclos, vous y croyez?
Écoutez, la réponse est extrêmement simple. Elle tient en un mot, c'est non.
Oui, c'est effectivement simple. Non, alors pourquoi? Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi l'ONU ne peut rien faire?
C'est pas exactement que l'ONU ne peut rien faire, mais si vous voulez, on parle diplomatie, pas diplomatie, mais la diplomatie, c'est avant tout la fonction d'un rapport de force. Dans l'affaire syrienne, les Russes, les Iraniens ont établi un rapport de force, largement effectivement parce que les Occidentaux se sont retirés, mais aussi parce qu'ils ont bien joué leur carte sécuritaire, et ils ont mis effectivement M. Erdogan dans le coup, et M. Erdogan ne pouvait difficilement faire autrement, puisque justement, il ne pouvait plus s'appuyer sur ses alliés occidentaux. Dans un tel contexte...
Mais Michel Duclos, il y a peut-être une carte là qui pourrait sortir pour les Nations Unies, c'est celle de la reconstruction. Ça va coûter cher, ça va coûter extrêmement cher.
D'abord,
je vous écoute.
Sur le comité constitutionnel, n'est-ce pas? Il faut quand même bien voir, on est dans Belle du Seigneur, la SDN, voilà, un pays à feu et à sang, avec un rapport de force très précis, le régime, grâce à ses soutiens, l'a emporté. Comment voulez-vous qu'en changeant la Constitution, après d'ailleurs des mois de discussion pour se mettre d'accord sur quelques noms, et on n'est même pas encore d'accord sur les procédures, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir une solution? Je trouve que les Nations Unies, honnêtement, en s'associant, en bénissant ce type de manœuvre, ne se grandissent pas.
Allez, peut-être une toute dernière réaction avec nos deux invités ici, Frédéric Ancel et David Rigoulet-Rose.
Le Conseil de sécurité, c'est le cénacle ou le forum de rapport de force entre cinq grandes puissances et, dans une certaine mesure, leurs alliés, à un moment M. Autrement dit, dire que, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, dire ou imaginer que l'ONU ne fait pas ou ne fait rien, vous savez, un peu à la manière dont on dirait, mais enfin, que fait la police, c'est ne pas connaître le fonctionnement de l'ONU, et vous l'avez bien rappelé tout à l'heure. La Russie et la Chine mettent systématiquement leur veto, mais c'est prévu depuis 1945 par la Charte des Nations Unies. Et je pense qu'on n'arrivera pas, effectivement, sur le dossier syrien, à faire autre chose, en tout cas on arrivera, nous autres les Occidentaux, on n'arrivera pas à faire autre chose parce qu'aujourd'hui le rapport de force qui a été établi, il est effectivement extrêmement favorable à la Russie. Et j'ajoute que la détermination russe est d'autant plus grande que l'alliance entre la Syrie et l'URSS des années 50, elle date précisément de cette époque-là. Et elle vise bien évidemment à permettre à la Russie de maintenir une base aéronavale très importante en Méditerranée orientale.
David Rigoulet-Rose.
Oui, alors effectivement, si quelque chose devait bouger, ce serait vraisemblablement parce que les Russes auraient des besoins justement à faire prévaloir, notamment en termes de reconstruction. C'est-à-dire que les Russes savent que la reconstruction du pays qui était la Syrie ne peut pas se faire sans l'argent des Européens notamment. Et donc la seule carte potentielle, mais c'est une carte effectivement stratégique en tant que telle, pour l'instant qui n'est pas opératoire, mais c'est que dès lors que Moscou comprendra qu'effectivement, et il a déjà compris, qu'il n'a pas les moyens de cette reconstruction, il faudra trouver une forme de logique transactionnelle qui ouvrira des opportunités minimales, mais en tout cas le maître du jeu, c'est en l'occurrence c'est toujours Poutine en la circonstance.
Et peut-être que d'une certaine manière, oui, Michel Duclos, je vous en prie, le mot de la fin.
Là aussi, si vous voulez, ne rêvons pas. Hein, la reconstruction, c'est quand même un concept occidental, même c'est-à-dire européen. Est-ce que vraiment les Russes raisonnent comme ça? Peut-être les diplomates, peut-être les think tanks. Mais j'ai beaucoup de doutes que Shoigu, Poutine, les gens qui sont vraiment à la manœuvre, s'intéressent en profondeur au point de savoir s'il faut qu'il y ait des usines textiles à Alep ou de l'agriculture à tel et tel endroit. Je pense que la reconstruction, c'est un peu la pâle, le miroir à l'alouette qui est placé devant nous pour nous inciter à faire ce qui fondamentalement intéresse les Russes, c'est-à-dire normaliser les relations avec le gouvernement d'Assad.
Merci beaucoup, Michel Duclos, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La longue nuit syrienne qui était parue à l'Observatoire. Merci beaucoup à nos deux invités ici en plateau, David Rigoulet-Rose. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai notamment Géopolitique de l'Arabie Saoudite. Un grand merci également à vous, Frédéric Ancel, vous concernant notamment mon dictionnaire géopolitique. C'était paru au PUF. On poursuivra évidemment notre série consacrée aux Nations Unies, à ces grands chantiers diplomatiques du moment. Demain, il sera question du climat, hein, qui devient, on le voit, une priorité diplomatique. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier à son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis les élections européennes, il semble que la vague populiste soit en train de se retirer, Brice.
Oui, Matteo Salvini s'est tiré une balle dans le pied en déclenchant prématurément les hostilités contre son allié 5 étoiles. De son côté, le FPE autrichien a dû abandonner les ministères qu'il détenait en Autriche à la suite de l'Ibiza Gate. En Grande-Bretagne, Boris Johnson paraît dans une situation inextricable. Dans nos pays, dit parfois de la vieille Europe, les populistes semblent en sérieuse difficulté, du moins jusqu'aux prochaines élections. En Europe centrale, par contre, la formule continue de faire recette. Le parti Droit et Justice, au pouvoir à Varsovie, se dirige vers une victoire annoncée aux élections législatives du 13 octobre prochain. En Hongrie, le Fidesz de Viktor Orban vole de victoire en victoire. En République tchèque, le milliardaire Andrej Babiš a gagné les élections de décembre 2017 avec son parti baptisé Action des citoyens mécontents. En Bulgarie, les populistes du parti Ataka sont associés au pouvoir au sein d'une coalition. Oui, le populisme semble être devenu une des caractéristiques des pays d'Europe centrale et orientale. Mais s'agit-il du même phénomène que celui qui a propulsé de notre côté de l'Europe les Salvini, Strache et Bojo au pouvoir? Populisme est une catégorie bien vague et il semble qu'en Europe centrale, il prenne des formes spécifiques en raison de l'histoire bien particulière des pays de cette région. Or voici que deux livres viennent de paraître en français miracle qui tentent une analyse du phénomène. Roman Krakowski, historien spécialiste de l'Europe centrale, signe chez Fayard « Le populisme en Europe centrale et orientale », sous-titre « Un avertissement pour le monde ?» Max Hervan Gastineau fait paraître au même moment aux éditions du CERF « Le nouveau procès de l'Est ». Le premier replace les populismes actuels dans l'histoire longue de la région qu'il connaît admirablement et le second tente une défense de ces populismes centre-européens qui a le mérite de poser les termes du débat qui oppose nos démocraties libérales à ces régimes qui se définissent, eux, comme des démocraties illibérales.
Et alors Brice, comment Krakowski définit-il le populisme ?
Comme une redéfinition des communautés politiques à partir du point de vue et des intérêts d'une catégorie de personnes reléguées aux marges du système. Ces groupes aspirent à renverser la table parce qu'elles ont le sentiment que dans le cadre du système existant, ils seront toujours perdants. Ainsi, aujourd'hui, dans les démocraties, dans les anciennes démocraties populaires qui ont vécu une transition très rapide du socialisme au capitalisme, l'électorat populiste est principalement composé de personnes qui ont le sentiment d'avoir plus pâti que bénéficié de cette fameuse transition. Les populistes sont des politiciens qui entendent reconfigurer la communauté nationale autour de ces catégories reléguées en redéfinissant des groupes comme étrangers au vrai peuple, voire comme ennemis de la nation. Mais remontons le fil du temps. Comme le démontre Krakowski, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les paysans sortaient d'un long assujettissement. En outre, ils étaient, roumains, bulgares, ukrainiens, slovaques ou croates, quand les grands propriétaires terriens, eux, étaient très souvent allemands, hongrois ou polonais. Le conflit de classe se doublait donc d'une différence nationale, dans une région du monde où les différentes nationalités étaient mêlées de manière inextricable. Dans ces nouveaux États, issus de la dissolution des empires austro-hongrois, ottomans ou russes, les paysans, donc majoritaires, s'emparent du pouvoir par les urnes. Et ils obtiennent la réforme agraire qu'ils avaient longtemps réclamée, le partage des terres. Leur leader développe alors une idéologie en vertu de laquelle le village est le conservateur des valeurs ancestrales traditionnelles. On y rencontre des êtres aux personnalités harmonieuses qui contrastent avec celle du citadin qui est dépeint par toute une littérature des années 20 comme désagrégé, inauthentique, désarticulé. Dans certains cas, ce pouvoir paysan tourne à la dictature agrarienne, comme c'est le cas en Bulgarie, tombée sous la coupe d'Alexander Stamboliski et de sa garde orange. Le sous-entendu d'une telle représentation, qui est donc celle de Krakowski, qui est libérale en réalité, et même profondément whig, je dirais, c'est que la démocratie repose idéalement sur le développement, l'extension et le pouvoir des classes moyennes. Or, Roman Krakowski a parfaitement raison de le souligner, les classes moyennes, en tout cas des classes moyennes nationales, eh bien c'est ce qui a manqué le plus aux petites nations d'Europe centrale et orientale. À la seule exception de la Tchécoslovaquie, dans ces pays, les membres de la bourgeoisie étaient considérés comme étrangers. Les artisans, commerçants et membres des professions libérales étaient très souvent juifs. Les entrepreneurs et les cadres ou ingénieurs des industries naissantes étaient souvent allemands, eux.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.